Les âmes groupes.
La capacité de l'être humain à manifester de l'empathie à l'égard de ce que vit un autre être humain vient d'ailleurs de ce passé où nous étions tous reliés les uns aux autres dans une même conscience. Aujourd'hui, cette liaison n'a pas disparu, heureusement. Elle est devenue inconsciente et elle se manifeste sans doute moins facilement qu'autrefois. Mais il existe des circonstances où nous retrouvons cette conscience collective. C'est le cas lorsque nous assistons à un match de football, à un concert, lorsque la nation se réunit autour d'un événement, une commémoration, un attentat, un deuil. Alors notre conscience semble s'extirper de notre cerveau et communie avec d'autres consciences pour ne former qu'une conscience, non plus individuelle mais collective. Des analyses très poussées ont été menées sur les cerveaux des musiciens d'une petite formation. Les conclusions sont sans appel. Les cerveaux des musiciens se synchronisent, ils ne forment plus qu'une conscience unique. Et cela est vrai de toutes les activités humaines. C'est le fameux esprit d'équipe qui devait animer autrefois nos ancêtres chasseurs-cueilleurs quand ils partaient en quête de nourriture. Et ne parlons pas des danseurs qui effectuent leurs mouvements dans un synchronisme quasi parfait. Les pilotes de la patrouille de France ont raconté à quel point, aux commandes de leur avion, ils se sentaient en communion avec les autres avions de leur formation. Voici ce qu'écrit Michel Berry dans son livre « Pour la beauté du geste, les leçons de management de la patrouille de France ».
Chaque démonstration est précédée par le rituel de la musique, orchestré par le leader. Assis face à lui, positionné comme dans la formation, les pilotes effectuent précisément les gestes qu'ils feront en vol, tandis que le leader détaille toutes les instructions, exactement comme il les dira à la radio. Les yeux fermés, chacun sent les autres autour de lui, tous ont le sentiment d'être dans leur avion.
Mais alors, comment en est-on venu à penser que la conscience était le fruit de notre cerveau, alors que même aujourd'hui, à l'occasion de certains événements, nous voyons bien que notre conscience dépasse les limites de notre individualité pour se fondre dans la masse, cette masse conditionnant alors nos perceptions, nos analyses et nos actions. En fait, longtemps confondue avec le divin, comme nous l'avons vu, la conscience individuelle n'a pas été l'objet d'une réflexion très élaborée. Elle ne se distinguait pas vraiment de l'âme et en conséquence, son étude n'était pas encouragée. Il a fallu attendre Descartes et le triomphe de la raison pour qu'on commence à s'y intéresser en se débarrassant le plus possible de tous les éléments religieux qui pouvaient lui être attachés. Mais comme on était loin d'avoir exploré tous les mécanismes mentaux, la conscience a été vue alors comme une expression naturelle du cerveau, ni plus ni moins. Conscience égale cerveau, cerveau égale conscience. Il a fallu attendre Freud pour prendre conscience, c'est le cas de le dire, que l'activité du cerveau ne se limite pas au seul phénomène dont nous sommes conscients. Il existe parallèlement une activité inconsciente très riche qui peut aussi influencer notre comportement et qui ne s'en prive pas d'ailleurs, comme l'a montré la psychanalyse.